Tournez dans vos Bibles en Colossiens 2, à la page 228 dans notre Nouveau Testament. Avant d'écouter la lecture des versets 1 à 7 de Colossiens 2, nous prions d'abord. Éternel, notre bon Père, nous tournons nos cœurs, nos âmes vers toi. Ta bonne parole nous dit de penser à ce qui est en haut, ce qui est dans le ciel, penser à toi. Pensez à tes desseins éternels de bienveillance envers ton peuple. Tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Enseigne-nous ce matin tes voies, nous t'en prions. Et nous marcherons dans ta vérité. Donne-nous des cœurs qui te désirent. Des cœurs qui veulent se disposer à marcher avec toi. Et comme nous venons de le chanter, être en tout temps tout près de toi, vivre tout proche de toi, en continuelle communion d'amour et de foi avec toi. Viens nous faire du bien, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons ensemble Colossiens 2, les versets 1 à 7. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Amen. Est-ce que vous pensez que les chants et les prières que nous avons faits depuis le début de cette célébration constitue ce qu'on pourrait appeler la partie adoration du culte, et que maintenant cette partie adoration étant terminée, nous allons pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Ce n'est pas une bonne façon de considérer la célébration, puisque selon la parole de Dieu, la prédication est aussi adoration. La prédication est aussi adoration parce que la prédication place devant nous des bonnes raisons de mieux connaître Dieu, de le chérir, de faire de lui notre trésor le plus grand, car c'est ce qu'il est réellement. Et donc, mettons-nous en mode adoration par la prédication. Lorsque nous voyons l'apôtre Paul développer sa lettre aux Colossiens, que nous regardons depuis quelques semaines, nous le voyons presque à chaque verset, rappeler à ceux à qui il écrit à quel point la beauté de Jésus-Christ, sa valeur inestimable, sa grandeur, la richesse de sa personne, ce qu'il est et ce qu'il fait, comment c'est le trésor des trésors et comment la personne de Jésus-Christ nous ravit. C'est ce qu'il veut nous convaincre en écrivant son épître aux Colossiens. On avait vu que le thème de cette épître, c'est la suprématie, l'excellence de Jésus-Christ au-dessus de tout. Nous sommes venus ici ce matin avec chacun nos combats, nos luttes, nos difficultés, nos fardeaux, nos vies qui sont souvent épuisantes. Mais nous venons ce matin boire à la fontaine de la vérité de la parole de Dieu pour être ressourcés. Nous venons ce matin ici nous délecter au banquet de la parole de Dieu que le Seigneur a préparé pour nous. C'est ce que nous venons faire. Nous venons adorer Dieu en écoutant sa parole, le message qu'il a préparé pour chacun de nous ce matin. Nous nous étions arrêtés la dernière fois au verset 3 de Colossiens 2. Nous reprenons ce matin donc au verset 4 que je relis. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Je dis cela. Cela, c'est quoi au juste? C'est peut-être tout ce que Paul a dit auparavant en commençant au verset 1 du chapitre 1. Mais si on regarde le contexte plus immédiat, le « cela », c'est le fait que en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Hein? Puisse, quand en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, les Colossiens ne doivent pas se laisser tromper par les discours séduisants de qui que ce soit. Jamais. Puisque nous avons tout en Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on écouterait les discours trompeurs des gens qui veulent nous séduire? Vous notez dans ce verset 4, le mot « trompe » et le mot « séduisant ». Et évidemment, pour le peuple de Dieu qui est habitué à la parole de Dieu, tout de suite, on pense à notre ennemi juré, le diable, le malin, qui est le séducteur en chef, le trompeur. Apocalypse 12, 9 nous dit qu'il séduit toute la terre habitée. 2 Corinthiens 11, 3, le serpent séduisit Ève par sa ruse. 2 Corinthiens 11, 13, Satan a de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent. Vous séduire et vous tromper, c'est le but du diable. Et il ne ménage rien pour vous séduire et pour vous tromper. Paul écrit à Tite, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde. Il écrit à Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les discours séduisants et trompeurs sont des discours qui détournent et éloignent de Jésus-Christ. Ce sont des discours qui nous flatte, qui nous amène à avoir confiance en nous plutôt qu'avoir confiance en Jésus-Christ. En Romains 16, 18, l'apôtre Paul parle des flatteurs qui séduisent les cœurs par de bonnes paroles ou par de douces flatteries. Dans son sac de discours séduisants, voici quelques exemples de ceux que le diable aime bien sortir de nos jours. Dieu n'est qu'amour. Dieu ne juge personne. Dieu ne condamne personne. À la mort, tout est fini. Le péché n'est pas si grave que ça. L'important, c'est d'être sincère. L'enfer n'existe pas. Comment un Dieu d'amour pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer? Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrances dans le monde. Toutes les religions se valent. Dieu sauve les bonnes personnes qui font leur possible. Dieu me recevra au paradis parce que je mène une bonne vie. Dieu est bienveillant dans tout ce qu'il fait, donc il ne peut pas se mettre en colère, c'est impossible. Etc., etc. Les médias se réjouissent d'inviter à leur micro des docteurs en théologie, des soi-disant spécialistes de la religion, des diplômés en tout genre, qui viennent à leur micro servir le diable pour chercher à tromper les gens par des paroles séduisantes et flatteuses. Un grand professeur émérite d'une célèbre faculté de théologie a dit récemment à Montréal dans une conférence, « Dieu n'a jamais destiné Jésus à la croix. » Ah ben. Les discours séduisants et trompeurs en 2019 sont peut-être encore plus séduisants, trompeurs et dangereux qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Imaginez, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu penser qu'un jour, les discours séduisants et trompeurs allaient se retrouver comme ça, dans toutes nos maisons, même dans nos poches, nos bidules électroniques, où on peut trouver toutes les folies du monde, toutes les séductions, les tromperies du monde, comme ça, à notre disposition. Combien c'est important pour nous de prendre garde. Comme Paul le dit ici, Jésus a dit dans son grand discours sur la fin des temps, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Paul écrit en Éphésiens 6, 5, « Que personne ne vous séduise par de vains discours. » Et au Thessaloniciens, il dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » L'apôtre Jean écrit que personne ne vous séduise. Autrement dit, vous qui êtes le peuple de Dieu, n'acceptez aucun discours qui ferait en sorte que vous vous éloigneriez de Jésus-Christ, que vous vous détourniez de lui. Nous sommes avertis tout au long de la parole de Dieu. Quel remède l'apôtre Paul a-t-il pour nous aider à ne pas nous laisser séduire et tromper? Eh bien, puisque en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, restons en lui, allons à lui, puisons en lui tout ce dont nous avons besoin, ne cherchons pas ailleurs, ne prêtons pas oreille à quelqu'un d'autre ou à d'autres idées ou philosophies ou croyances quelconques. Tout se trouve en Jésus-Christ pour avoir la vie, le salut, le bonheur. Restons en lui. Puisez dans les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont en Jésus-Christ. Voilà le remède et l'antidote, la meilleure sauvegarde contre toutes les séductions qui se trouvent dans le monde, toutes les tromperies. La connaissance de Jésus-Christ, elle est assez, elle est suffisante, elle est plus que suffisante pour que nous ayons la vie si riche et abondante qui se trouve dans le Fils de Dieu. C'est la clé pour fermer la porte aux mensonges de l'ennemi et à ses séductions. Au moment où il écrit son épître, vous vous souvenez, l'apôtre Paul n'est pas avec les Colossiens, il est en prison à Rome. Mais il a beaucoup à cœur, les Colossiens, et il a entendu des bonnes nouvelles d'Épaphras qui lui a envoyé à propos des Colossiens. Et nous lisons au verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi. » Deux choses réjouissent le cœur de Paul. Le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi. Paul utilise des mots, des termes militaires. On n'oublie pas, il est en prison. Il est gardé. Il parle de ses chaînes au chapitre 4 à deux reprises. Il est enchaîné. Le bon ordre qui règne parmi vous fait référence à une rangée de soldats. Les rangs serrés, bien disciplinés, qui sont au service du général et qui font ce qu'ils doivent faire pour affronter l'ennemi. Un général ne peut pas être l'armée à lui tout seul. Un général a besoin de soldats. Et ici, c'est l'image d'une rangée, de plusieurs rangées même, de soldats disciplinés, unis, forts, qui sont prêts à affronter l'ennemi. Et l'apôtre Paul, il dit, ça me réjouit. Les nouvelles qu'Épaphras m'a apportées me réjouissent parce qu'il me dit que vous êtes vraiment unis ensemble. Et vous êtes disciplinés, vous êtes prêt à affronter l'ennemi, le bon ordre qui règne parmi vous. Puis, la solidité de votre foi. Les mots qu'il utilise sont utilisés ailleurs pour parler d'une forteresse. Une forteresse imprenable qui résiste aux assauts, aux attaques des ennemis. Les Colossiens sont comme une forteresse imprenable. Paul se réjouit de ça. Il n'est pas un spectateur de loin indifférent, mais il a vraiment à cœur ce peuple de Dieu partout. Hein, vous vous souvenez, il avait le souci de toutes les églises, se préoccupait des enfants de Dieu partout, et il est réjoui, se réjouit de voir l'état de l'église de Colosse et le fait qu'il leur dit ça. C'est une façon de leur dire, je vous encourage et vous exhorte à ne pas décliner, à ne pas déchoir, à ne pas abandonner votre fidélité, voyant avec joie la solidité de votre foi. Mais c'est n'importe où, versets 6 et 7. Paul précise encore davantage comment les chrétiens peuvent résister aux discours trompeurs et séduisants. Verset 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Il y a une sorte de marche qui va nous protéger contre les dangers des discours séduisants, c'est de marcher en Jésus-Christ. Comme vous avez reçu le Christ Jésus. Comment les Colossiens avaient-ils reçu le Christ Jésus? Ils l'avaient reçu par la foi. On avait vu ça au chapitre 1, au verset 4, Paul avait parlé de leur foi. Ils avaient reçu, ils avaient embrassé le Christ Jésus, ils l'avaient accueilli dans leur vie par la foi. Ils doivent continuer à marcher par la foi. À marcher avec le Seigneur Jésus en trouvant en lui leur bonheur, leur joie, en s'efforçant par la puissance du Saint-Esprit de lui obéir, d'exercer la confiance continuelle en lui. C'est comme si Paul leur dit, continuez, ne lâchez pas, restez dans le Seigneur, demeurez toujours en lui, attachez-vous à lui. Suivez-le, c'est votre trésor, vous avez tout en lui. Alors ne laissez personne ni rien vous le voler, restez en lui, suivez-le. Vous vous souvenez dans les évangiles, Jésus dit à plusieurs personnes, suis-moi. L'apôtre Paul dit la même chose dans des mots différents, suivez-le. De nos jours, quand on va au restaurant, quand on va dans plusieurs commerces, à plusieurs endroits, on nous dit, on nous écrit sur les napperons, on nous dit, suivez-nous sur Facebook, Instagram et patati patata. On était chez Saint-Hubert l'autre jour, sur le napperon, suivez-nous! C'est quoi ça, là? Est-ce que je vais me mettre à suivre tous les commerces, tous les magasins, toutes les entreprises, tous les groupes qui veulent que je les suive, que je m'intéresse à eux, puis que je participe à tous leurs concours? Ça finira plus, là. Mais suivre Jésus, ça, c'est important. Suivez-le, nous dit Paul en d'autres mots. Restez en lui, restez attachés à lui. Notez bien ces mots, le Christ Jésus, le Seigneur. C'est le titre qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour parler de l'éternel Dieu. Il y a des gens qui refusent d'appeler Jésus-Christ le Seigneur, mais ils se trompent. Jésus est le Seigneur, le Maître de nos vies. Paul enseigne donc aux Colossiens et à nous en même temps que ça ne nous profitera de rien de recevoir Jésus pour ensuite l'abandonner, que nous devons continuer avec constance dans la foi. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va se détourner des tromperies, des philosophies mondaines, insensées, de toutes les faussetés de l'ennemi. Quand la vérité de l'Évangile est solidement installée en nous, elle nous sert comme d'une muraille de fer pour repousser, pour bloquer les pièges de l'ennemi. Notez bien maintenant le magnifique verset 7 et toute la richesse qu'il contient. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Il y a quatre éléments ici dans ce beau verset. Premier élément, soyez enracinés en Jésus. C'est une métaphore qui est prise du domaine des arbres, de même qu'un arbre qui est profondément enraciné va pouvoir résister au vent violent, aux orages, à toutes les impétuosités de la nature. Alors, si quelqu'un est bien enraciné en Jésus-Christ, il ne pourra pas être facilement renversé par les machinations du diable. Il va tenir ferme, il va rester debout. Mais si quelqu'un n'a pas les racines de son cœur solidement plantées en Jésus-Christ, il va être malmené comme un arbre qui n'a pas de racines profondes et qui est arraché au premier coup de vent. Lors de la tempête du 1er novembre, nous en avons vu un peu partout des arbres déracinés. Lorsque je suis devenu pasteur et jusqu'à aujourd'hui, quand je repense à toutes les années, j'ai vu des personnes qui étaient dans le peuple de Dieu, qui ont été déracinées aussi par le vent, des persécutions, par le vent de l'ennemi, par le vent des épreuves, des difficultés, des afflictions. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est triste, mais c'est en même temps un avertissement pour chacun de nous. Vos racines doivent descendre en profondeur dans la vérité divine qui est en Jésus-Christ, et votre foi ne sera pas renversée, ne sera pas ébranlée. Vous aurez stabilité et fermeté jusqu'à la fin de votre vie. Deuxième élément du verset 7, soyez fondés en lui, en Jésus. C'est une métaphore maintenant qui est prise du monde des bâtiments. La maison qui n'est pas fondée, appuyée sur de solides et bonnes fondations, pourra être facilement renversée. Et ici, nous pensons à la parabole de notre Sauveur, en Matthieu 7, les deux maisons, vous vous souvenez, la maison bâtie sur le sable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Il en advient ainsi à ceux qui n'ont pas le solide fondement de leur vie sur le Christ Jésus. C'est ce qui leur arrive. L'édifice de leur foi, si elle est comme suspendue en l'air, si elle est légère, sans profondeur, eh bien, elle s'écroule tôt ou tard. Par contre, si nous sommes solidement fondés en Jésus-Christ, bien qu'il puisse arriver dans notre vie toutes sortes de choses qui peuvent remettre en question divers appuis, eh bien, nous pouvons dire comme le cantique, « Si mon âme perd tous ses appuis, tout mon espoir demeure fondé en lui. » Vous voyez, par ces deux métaphores, l'apôtre Paul fait un contraste entre ce qui est profond et ce qui est superficiel, léger. Et il veut nous exhorter à nous assurer d'approfondir notre lien avec le Christ Jésus. Troisième élément, il dit « Soyez affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. » Nous avons tous besoin d'être affermis, renforcés, consolidés dans notre foi, selon les instructions de la parole de Dieu. C'est vital pour chacun de nous, pour que notre foi se solidifie sans cesse. Lorsque vous écoutez un sermon comme vous êtes en train de le faire présentement, lorsque vous lisez votre Bible à la maison, lorsque vous participez à une étude biblique, vous n'êtes pas en train de perdre du temps, vous êtes en train de vous affermir dans la foi, de consolider votre foi, de vous solidifier dans le Seigneur. Dans un sens, vous êtes en train de gagner du temps, vous êtes en train d'accumuler, si on peut dire, de grands moments de bonheur dans la suite de votre vie, puisque le Seigneur est en train de vous affermir dans la foi. Quatrième élément, Paul dit « abonder en action de grâce ». Abonder, c'est un des mots préférés de l'apôtre Paul. Il l'utilise 26 fois dans ses épîtres. Abonder en action de grâce doit être une espèce de coutume de notre vie habituelle, quotidienne. Ceux qui ne sont pas dans cette attitude d'abonder en action de grâce sont très vulnérables aux tromperies, aux séductions du malin. Abonder en action de grâce. Les actions de grâce, bien sûr, qui s'adressent à Dieu. Nous ne nous remercions pas nous-mêmes. Nous serions comme le pharisien au temple qui se louange à lui-même. Non, nous louons Dieu, nous remercions Dieu de nous avoir fait connaître cet évangile si glorieux, de nous maintenir dans cet évangile, de nous donner la repentance et la foi et la vie qui est si riche en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu pardonne abondamment. C'est normal que nous le remercions abondamment, que nous abondions en action de grâce, en retour de son amour. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» dit le psalmiste au psaume 116-12. « Comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits envers moi ?» Il y en a tellement de bienfaits que Dieu nous manifeste jour après jour. Ceux qui abondent en action de grâce sont moins portés à prêter oreille aux faussetés, aux tromperies, aux philosophies, aux séductions du diable, parce qu'ils ont trouvé le bonheur en Jésus-Christ. Notez bien que Paul ne prie pas que les Colossiens puissent commencer à essayer d'être reconnaissant, mais plutôt que l'océan de leur gratitude puisse constamment déborder au-delà du périmètre de leur vie. Un âme, un cœur, un esprit qui n'est plus habité par cette abondance d'action de grâce n'est plus centré sur le Christ Jésus, sur ce qui est en haut, mais est trop centré sur ce qui est en bas, sur la terre. Les pièges, les séductions trompeuses sont pour ceux qui ne vivent pas dans les actions de grâce. Et pour Paul, c'est quelque chose qui est très important. Au chapitre 1, au verset 12, on avait vu qu'il disait « Rendez grâce à Dieu ». On voit ici au chapitre 2, « Abondez en actions de grâce ». Au chapitre 3, il dit « Soyez reconnaissants, rendez grâce par Jésus à Dieu le Père ». Au chapitre 4, il va écrire « Veillez à la prière avec action de grâce ». Toujours, action de grâce. Passez-vous vos journées à murmurer contre Dieu ou contre votre situation, à ronchonner, à critiquer, à maugréer. Il faut arrêter ça, dit Paul. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à vivre en abondant en action de grâce. Vous avez tellement de raisons de le faire. Vous voyez que dans ces versets 4 à 7, comme dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le Christ Jésus est au centre de ce que Paul dit. Votre foi en Christ, vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés, fondés en lui. Chaque bouchée d'air frais que nous pouvons prendre dans notre marche chrétienne vers l'éternité est due à Jésus-Christ, a été payée par Jésus-Christ, par son sang, par la croix. Sans la croix de Jésus-Christ, aucun bienfait ne pourrait descendre sur nous. C'est grâce à la croix de Jésus-Christ que nous avons des promesses de Dieu, que nous avons des bénédictions de Dieu, que nous recevons des bienfaits de Dieu. Tous les dons de Dieu sont à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sans la croix, nous n'obtiendrions rien d'autre que la colère de Dieu parce que c'est ce que nous méritons en nous-mêmes. C'est ma responsabilité, moi, de vous indiquer le chemin de la vie, de vous exhorter à marcher sur le chemin de la vie et de vous mettre en garde contre le chemin de la mort. Et c'est ce que j'ai fait ce matin en vous rappelant l'importance de marcher en Jésus-Christ, de rester en lui, de trouver votre bonheur, votre plaisir, votre trésor en lui. Notre profession de foi initiale que nous avons faite un jour doit être confirmée au quotidien par la persévérance dans la foi, la persévérance dans le processus de sanctification que Dieu opère en nous. La foi qui sauve est authentifiée par une vie transformée. Je n'ai pas dit une vie parfaite, il n'y en a pas de vie parfaite, mais une vie transformée, c'est-à-dire où il y a un cœur transformé, des habitudes nouvelles, des actions concrètes qui ressemblent de plus en plus au Fils de Dieu. Il faut que ce soit là. C'est ça qui authentifie la réalité d'une vie chrétienne. La justification et la sanctification vont toujours ensemble. J'ai dit tantôt en commençant que la prédication est aussi de l'adoration, parce que ça nous fait connaître davantage et aimer et chérir plus le Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus-Christ. Par les versets que nous avons lus ce matin en Colossiens 2, l'apôtre Paul nous exhorte à accorder une beaucoup plus grande valeur à Jésus-Christ, à le chérir, à le considérer comme notre trésor suprême et à trouver notre satisfaction en lui. Le Seigneur Jésus est infiniment beau et précieux. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, il importe de prendre garde et de ne laisser personne nous tromper par des discours séduisants. Mais il importe de marcher en Jésus, enraciné en lui, fondé en lui, affermi dans la foi, en abondant, en action de grâce. Amen.